Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Alors, on en parlait en début d'émission. Vous avez probablement vu le dossier qu'il y avait sur l'éducation cette fin de semaine au Journal de Montréal. Les élèves sont découragés, les enseignants le sont tout autant. Et nous avons avec nous Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Bonjour, Madame Risky.
Bonjour.
Alors, vous avez probablement vu ce dossier vous-même. Comment vous avez réagi?
Ben, je pense que non seulement je l'ai vu, mais je pense qu'on l'a peut-être même prédit à l'Assemblée nationale en interpellant le ministre de l'Éducation spécifiquement sur ce sujet. Vous savez, de temps en temps, le vendredi, on peut faire ce qu'on appelle des interpellations, donc on peut choisir un thème. Et on a choisi plusieurs fois l'éducation et on avait dit au ministre de l'Éducation, en ce moment, c'est criant le manque de personnel. Il nous manque des enseignants. Et ça fait en sorte qu'un élève peut voir jusqu'à 9 différents enseignants entre septembre puis le mois de janvier. Et qu'est-ce que ça peut causer, ça? Bien, ça peut causer un découragement et un manque de sentiment d'attachement pour un élève envers son enseignant. Et malheureusement, on a aussi dit qu'on ne veut pas avoir de génération COVID, c'est-à-dire une génération où est-ce qu'on pourrait voir une hausse du nombre de décrocheurs scolaires. Et il n'y a pas si longtemps, la journaliste Daphné Dionvienne, Joanne de Québec, avait publié des données tellement alarmantes en matière de décrocheurs scolaires qui avaient doublé dans plusieurs centres de services scolaires au Québec. Et le ministre semblait totalement impassible. Il nous disait toujours « ça va bien ». Inquiétez-vous pas, les oppositions, vous faites juste peur au monde, mais on a tout ça sous contrôle. Visiblement, il n'a pas le contrôle de la situation.
Mais Madame Risky, ces retards, évidemment, il y a les élèves qui disent que c'est la faute des enseignants, les enseignants qui disent que c'est la faute des élèves. C'est la faute à qui, d'après vous? Là, je vous donne un défi. Je vous lance un défi. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est celle de Jean-François Roberge et du gouvernement.
Mais moi, j'ai été professeure à l'université, puis la première chose que je disais à mes étudiants le jour 1, si jamais vous échouez mon cours, c'est 50% de votre faute et 50% de ma faute. Alors, ben, il y a l'effort qui doit être fait. Mais les élèves disaient hier dans le journal, ben, les profs sont découragés. Et il y a un psychologue qui dit, moi, c'est la première fois que je vois mes collègues enseignants rentrer dans mon bureau, parce qu'un psychologue à l'école, c'est pour nécessairement plus pour les élèves que pour le personnel scolaire. Et là, même le psychologue, il dit, moi, là, j'ai des enseignants là, qui sont pratiquement sur le bord du burn-out, là, sont vidés, sont brûlés. Puis il y a une autre affaire aussi que les élèves disent. Ils disent aussi, ben il y a des profs qui sont pas là et qui sont absents. Puis ça fait quoi, ça? C'est-à-dire qu'on a des suppléants. Moi, j'ai un jeune élève qui m'a écrit pour me dire que pendant 5 semaines, il n'y a pas eu d'enseignant dans son cours. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surfé sur le net. Et ça aussi, le Journal de Montréal avait relevé. C'était pas un seul endroit que c'est arrivé. C'est arrivé dans d'autres endroits au Québec que les élèves étaient laissés à eux-mêmes par faute d'enseignants. Alors ça, c'est un problème qu'on a vraiment réel. Et rappelez-vous, la une du Journal de Montréal, il y a un an pour la rentrée scolaire, il nous manque 500 enseignants à Montréal seulement. Imaginez comment ça peut être difficile pour un élève de réussir sans enseignant.
Mais parlons solution. On fait quoi dans ce temps-là? Là, évidemment, quand le gouvernement ou quand on voit qu'il y a des commissions scolaires qui abaissent les standards en embauchant des enseignants ayant à peine un secondaire 5, on dit qu'on nivelle vers le bas. Quand on n'arrive pas à avoir des enseignants, évidemment, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On peut pas augmenter les groupes plus que ça. Qu'est-ce que vous, Marois Risky, si vous étiez ministre de l'Éducation, vous feriez devant un tel scénario?
Ben là, nous, on a fait plein de propositions, alors je suis vraiment contente que vous m'en parlez. Première des choses, non, on n'acceptera pas au Québec qu'un jeune qui a à peine son secondaire 5 commence à enseigner à ses camarades de classe l'année passée. Pour moi, ça, c'est une fin de non-recevoir. Je veux même pas qu'on embarque là-dedans, c'est non. Moi, là, vous allez faire votre bac, là, puis vous allez, si vous avez un bac parfait, vous pouvez faire de la suppléance. Mais là, on va se limiter, là, puis non, on ne nivellera pas vers le bas. D'autre part, ce que moi j'avais demandé au Parti libéral du Québec, on avait fait une annonce de Dominique Anglade et moi, on voulait avoir plus d'enseignants. Puis pour ce faire, oui, il existe la maîtrise qualifiante, mais il y en avait juste une au Québec, c'était l'Université de Montréal. Alors, la maîtrise qualifiante, c'est quoi pour les gens qui sont peut-être pas très, très familiers avec le réseau d'éducation? En temps normal, ça prend un bac en enseignement qui dure 4 ans. Mais imaginez que vous avez fait un bac en littérature, un bac en histoire, un bac en mathématiques, et que vous aimeriez devenir enseignant. Mais là, on vous demandait avant de refaire un autre bac de 4 ans, ce qui est beaucoup trop long. Donc, on a développé, le ministère de l'Éducation a développé la maîtrise qualifiante. Donc, c'est un 2 ans de formation en pédagogie pour vous préparer à être dans une classe. Mais cette maîtrise est très populaire à l'Université de Montréal. Il y a eu 975 demandes et seulement 250 environ ont été acceptées. Alors nous, on a demandé au ministre d'en déployer ailleurs au Québec, à Chicoutimi, à l'UQAC, à l'Université de Laval, à l'Université de Sherbrooke, partout au fond où est-ce que des universités, on veut que ce programme existe pour faciliter justement le nombre de personnes qui ont déjà un bac en poche, mais qui n'ont pas un bac en enseignement et qui, eux, voudraient se qualifier pour être un enseignant. Si on est capable de le faire rapidement. Et dernièrement, là, j'ai vu que la TELUC a lancé un programme à distance. C'est une bonne nouvelle. Alors là, au moins, on a ça. Ça, c'est pour régler juste la question des enseignants.
Oui, juste ça, c'est un chantier. Mais je veux vous entendre sur la proposition de certains experts que d'enlever les examens, les épreuves ministérielles parce qu'il faudrait diplômer plus d'élèves plutôt que d'imposer un examen pour tous les élèves du Québec. Vous pensez quoi de cette proposition?
Ben, moi, c'est ce que, pour durant la pandémie, c'était normal qu'il n'y ait pas d'examen, l'épreuve ministérielle, parce que l'épreuve ministérielle, on veut voir, on va avoir un coup de sonde partout au Québec de la réussite éducative des jeunes. Le problème, c'est que si des jeunes ont été pénalisés parce que leur école a été fermée plus longtemps, ben, c'est pas représentatif, cet examen. Maintenant que tout le monde est à l'école, on est capable de reprendre l'examen pour justement avoir le coup de sonde. Si on élimine ces examens-là, on n'aura pas le portrait global de la situation au Québec. Alors moi, je suis convaincue qu'il faut le maintenir. Par la suite, il faut aussi cultiver le travail. Je disais Richard Martineau ce matin, puis c'est vrai, il faut continuer, là, même si c'est difficile, il faut qu'on cultive l'excellence, qu'on cultive le travail. Puis même si des fois, ça peut paraître là, insurmontable, ça se peut qu'un jeune aujourd'hui ait une moins bonne note, mais il ne faut pas qu'on commence à essayer de bonifier sa note. Non, il faut qu'il regarde sa note globale, puis faire face à ça. Et si jamais, malheureusement, il est en échec, ben, il sera en échec, puis malheureusement, ben, il y aura des cours d'été, mais il va apprendre de cette situation-là, qui est capable de redoubler d'efforts pour réussir. Mais ce jeune, pour réussir, a aussi besoin de soutien. Et en ce moment, l'autre enjeu qu'on a, c'est qu'il nous manque des spécialistes, donc les professionnels de soutien, les orthopédagogues, les orthophonistes, les psychologues. Tout ça, c'est une pénurie globale en ce moment dans le réseau d'éducation. On en a vraiment besoin maintenant, là.
Madame Risky, durant la pandémie, il y avait une grosse annonce du ministère de l'Éducation d'un programme de tutorat d'enseignants retraités ou des étudiants universitaires qui pouvaient être jumelés à des étudiants qui avaient de la difficulté. Est-ce que vous avez des nouvelles sur cette annonce?
Ben nous, on a posé la question lors des crédits au ministre de l'Éducation. Il n'était pas capable de nous fournir des données. On a voulu savoir, parce que c'est annoncé au début de l'automne pour la rentrée scolaire 2021. Donc, on a demandé à savoir combien de jeunes ont été parrainés avec on va l'appeler un mentor pour les faire de la discussion. Incapable de nous le dire. Aucun chiffre, aucune donnée là-dessus. J'ai vraiment l'impression qu'on fait beaucoup des annonces au ministère de l'Éducation, mais il n'y a pas de suivi par la suite pour voir est-ce que oui ou non, cette mesure fonctionne. Quel est l'impact de cette mesure? Malheureusement, le ministre, pour plusieurs questions qu'on lui a posées, même je vais vous donner un petit exemple, on lui a demandé c'est quoi les prévisions futures pour les retraités au niveau des enseignants? Incapable de nous dire, alors qu'on est en grave pénurie d'enseignants, il me semble qu'on devrait avoir des données pour mieux planifier les embauches, puis aussi voir si on doit augmenter vraiment le nombre qu'on va qualifier au Québec là, pour être enseignant.
Mais comment on fait pour recruter? Comment on attire des enseignants à l'heure de cette pénurie de main-d'œuvre? Ça ne semble pas être un milieu qui attire, où il y a de l'attraction de personnes qui veulent enseigner. Comment on fait ça actuellement? Ouais.
Je vous dirais que la première des choses que moi j'entends, c'est vraiment la valorisation. Vous savez, désolée, j'avais un chat dans la gorge. Donc, c'est vraiment la valorisation. Puis, je regarde évidemment les réseaux sociaux, il y a des blogs d'enseignants. Et quand ils voient qu'un jeune élève de seconde à 5 qui viennent graduer, va être dans la classe à côté, ça, ils aiment pas ça. Ça, c'est une gifle d'en face. Moi, j'ai fait mes 4 années de bac pour devenir enseignant. Et quelqu'un qui a juste un secondaire 5 maintenant peut enseigner dans la classe à côté de moi. Ça, c'est une insulte. Et ça, il faut savoir que c'est une autorisation qui émane du ministère de l'Éducation. Alors, je crois sincèrement qu'on est dû pour avoir une vraie conversation, tout le monde ensemble. On avait demandé d'avoir un sommet sur l'éducation. Le ministre a dit oui à ma demande, mais il l'a fait de façon fermée, donc à huis clos. On n'a jamais vu ça, nous, un sommet en éducation à huis clos. Alors, je voulais avoir une vraie discussion avec tout le monde du réseau d'éducation pour qu'on se donne des bases, des solutions ensemble pour avancer. Parce qu'effectivement, ça fait plusieurs années qu'on parle de l'éducation et qu'on a de la misère à garder nos enseignants. Il y a vraiment un exode.
Madame Risky, je m'en voudrais de vous avoir au bout du fil et de ne pas vous poser cette question. Les élections arrivent à grands pas. Je suis devant la liste des investitures. J'aimerais savoir si vous allez être de la course aux prochaines élections. Vous allez encore briguer les suffrages pour le 3 octobre prochain.
Ben oui, certainement.
Ben oui. Super. Alors, j'imagine que l'annonce de votre campagne électorale à venir se fera bientôt. Là, on voit que le Parti libéral succède plusieurs investitures. D'ailleurs, votre conjoint, Greg Kelly, a connu la sienne dans les derniers jours.
Vendredi, j'y étais avec notre chef Dominique Anglade. Oui, effectivement, il y a plusieurs investisseurs qui se font présentement. Moi, j'ai un horaire un peu plus particulier à cause de mon état.
Je comprends parfaitement. Évidemment, ça prend quand même du courage d'aller en campagne électorale durant une grossesse, là, faut le dire. Mais ça, c'est pas mal. S'il y a une personne à laquelle je pense qui pourrait faire ça, c'est bien vous, Madame Risky.
Ben, j'ai du plaisir dans tout ce que je fais. J'ai toujours dit que tant son temps que j'aurais du plaisir, je vais continuer.
Et ce plaisir-là n'est-il pas gâché par les résultats des derniers sondages?
Ben, moi, sincèrement, c'est que je regarde... vous savez, dans le journal, j'aime aussi la section astrologie. Mais je fais le sondage sur astrologie dans la même section. Je l'ai lu pour vrai, mais ça me fait sourire, ça me fait rire de temps en temps. Mais
est-ce que vous croyez plus en astrologie que dans les sondages?
Ni l'un ni l'autre, mais les deux me font quand même sourire. Alors, non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que si on commence à mettre toute notre enfance sur les sondages, ben à ce moment-là, à quoi bon on aurait une élection? On va juste regarder les sondages pour demander à Jean-Marc Léger de nous répartir les sièges en chambre avec un dernier sondage le 3 octobre. Mais de façon plus sérieuse, je vais vous dire ce qui m'inquiète le plus. C'est pas les sondages. C'est une tendance qui commence à se décliner, pas juste au Québec, mais aussi ailleurs. J'ai vu le taux de participation de l'Ontario, qui était vraiment phallénique, de 43%. De voir qu'au Québec, aux élections municipales, environ 37% de participation. Donc, ça, c'est 2/3 qui restent à la maison. Mais nous, aux dernières élections au Québec, c'est presque 1 Québécois sur 3 aussi qui reste à la maison. Ça, je pense que tous les élus devraient vraiment s'inquiéter de ça, de voir que les gens préfèrent ne pas voter que de s'exprimer. J'espère qu'on va tous faire l'effort collectif d'aller voter. Ailleurs dans le monde, il y a des gens qui se battent pour aller voter.
Ça, c'est sur ce, Madame Risky, sur ces belles paroles, espérons que les Québécois vont être nombreux à se présenter aux urnes le 3 octobre prochain. Je rappelle, Marois Risky est députée de la circonscription de Saint-Laurent et porte-parole officielle en matière d'éducation. Merci beaucoup, Madame Risky.
Merci à vous. Bonne journée.